chant que vient de jouer Jacqueline, c'est un superbe chant, qui s'intitule « Jésus, que ma joie demeure ». Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu de culte et que votre joie demeure. Et si même, vous n'êtes pas venu spécialement dans la joie, que vous repartiez avec la joie. Je ne vous fais pas de dessin, mais les images que les médias nous dévoilent sont de plus en plus violentes. D'une manifestation pacifique, il en découle des débordements qui finissent souvent par des blessés, des hospitalisés, parfois des décès. Tout est sujet à discussion. On discute sur tout. Même une copine à moi qui avait mis sur Facebook, elle avait mis une photo d'une banane, elle dit « Allez, on va discuter, ceci est une pomme. » On a discuté, discuté, on discute de tout. Tout est critiqué. Et j'ai appris qu'il y avait en moyenne quelques 1000 manifestations à Bruxelles. 1000 manifestations autorisées, parce qu'il y a encore le non autorisé. 1000 manifestations autorisées, donc ce qui fait plus ou moins 3 par jour. Je comprends qu'il n'y a plus personne qui veuille habiter Bruxelles. Il est évident qu'il y a, hélas, davantage de monde dans les rues que dans les églises. Et j'aimerais reprendre une question que je trouve dans l'évangile de Luc, et c'est Jésus qui la pose dans Luc, chapitre 8, verset 18. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Au vu des médias, je pense que la foi sur terre s'est dépassée. Oh non, au XXIe siècle, c'est obsolète de croire. On ne doit plus croire, on ne croit plus. Ça ne sert à rien. On ne croit plus en rien. Cet adage qui dit « Laissons croire les béguines et les curés, ils sont payés pour ça. » On ne croit plus en rien. On ne croit même plus aux politiques. On ne croit plus même plus aux scientifiques. On ne croit plus aux médecins. Alors, croire en Dieu. Mais en plus, on met tout sur son dos. On met Dieu dans le même bain, et puis, ben, c'est de sa faute. Hein. S'il y avait un Dieu, il pourrait arrêter tout ça. Ou alors, s'il avait un Dieu, ça n'arriverait pas. Il n'y aurait pas tout ce qui se passe. La Bible déclare dans Hébreux 11, 6, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. » Souvent, ceux qui disent « Ouais, Dieu n'existe pas, c'est de sa faute. » Ils n'y croient pas, mais ils en parlent. Tu ne peux pas parler de quelqu'un en qui tu ne crois pas, c'est pas possible. Dieu est là. Pour croire en Dieu, il faut croire qu'il est là. Pour parler de lui, il faut croire qu'il est là. Et nous voulons chanter ce chant « Nous croyons en Dieu le Père ». Nous, en Église, nous croyons que Dieu est là, qu'il a donné son Fils Jésus et que par le Saint-Esprit, nous sommes régénérés. Je vous invite à chanter ce chant. Nous croyons que Dieu existe et nous avons la possibilité de lui parler. Lui s'est révélé en venant sur terre par Jésus-Christ, il s'est révélé par sa parole écrite, la Bible, il s'est révélé aussi dans l'humanité, dans sa création, et nous avons la possibilité de le prier. Et je vous invite maintenant à avoir un moment de prière pour ceux qui le veulent s'exprimer librement, le louer, ou partager, ou intercéder. Je vous invite à ce moment de prière commune. Père éternel, nous voulons nous présenter devant toi parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu t'es révélé, c'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui nous as créés. Merci pour ce don immense et ce Christ qui est mort pour nous. Merci parce que tu es le Tout-Puissant et nous voulons t'honorer parce que tu t'es abaissé pour nous rejoindre et nous élever vers toi. Merci Père. Amen. Amen. Dieu s'est aussi révélé par la Bible, écrite par plus ou moins 40 auteurs différents, et sur une période de plus ou moins 1500 ans. Et cette Bible, voilà ce qu'elle nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Je vous lis ce texte qui va introduire notre frère Henri, qui nous apportera un partage. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et le plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut, et aussi on l'enterra. Le riche souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où vous êtes. » Le riche dit, « Je t'en prie, père Abraham, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. » Autrement dit, ils ont la Bible. « Qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffira pas, père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Jusqu'ici, cette lecture, c'est une parabole, ce qu'on appelle une parabole, c'est un exemple de la vie courante pour illustrer une image. Jésus voulait parler de ce qui se passait après la mort. Pour nous, les vivants, c'est la seule chose qu'on est certain, c'est qu'on va mourir. Et je laisse toute la place à mon frère Henri.
Merci Jean-Luc. Nous allons entamer ce message par deux versets tirés de Jean 3. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions. Seigneur, qu'il est bon de se retrouver entre frères et sœurs pour partager ensemble ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Que ton Esprit Saint repose sur chacun de nous, afin que ta parole soit proclamée et non la mienne. Amen. Avant de vous donner le titre de ce message de ce dimanche, je veux préciser que c'est un sujet qui n'est pas facile. Parler de la mort, ce n'est pas toujours très agréable, et il faut le dire, c'est un sujet délicat. Donc, je donnerai comme titre de mon message de ce dimanche, « Peut-on s'adresser à un défunt ?» Vous savez tous que je suis un passionné d'architecture et d'histoire de l'art, surtout de ma ville de Liège. En visitant dernièrement à Liège l'église Sainte-Marie des Anges, paroisse où je suis né, le chemin de croix débute par un verset gravé dans la pierre qui m'a interpellé. Je cite, « C'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » C'est un texte tiré des écrits apocryphes du deuxième livre de Maccabée, chapitre 12, verset 46. Le petit dictionnaire profane classique apocryphe se définit comme un texte qui n'est pas authentique et qui peut être faux, inventé ou contesté. Dans le langage religieux, apocryphe désigne un texte qui n'a pas été repris lors de l'établissement des textes bibliques comme étant inspirés de Dieu. Mais après maintes recherches, j'ai été très étonné de relever à travers l'histoire religieuse une liste de plus de 100 écrits apocryphes, dont la plupart d'entre eux font encore aujourd'hui l'objet de recherches historiques. En ce qui concerne les 4 livres des Maccabées qui se situent dans le temps entre l'Ancien et le Nouveau Testament, certaines églises orthodoxes reconnaissent l'intégralité des 4 livres comme partie intégrante de la Bible. Les catholiques reconnaissent que les 2 premiers livres, les juifs et les protestants n'en reconnaissent aucun. Voilà pour une précision. Cette précision devait être faite avant de comprendre le reste. Mais avant toute chose, je suis obligé, et vous l'aurez deviné, de faire un peu d'histoire. C'est mon dada. Dans le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre l'an 500 et 1300, la mort apparaît comme quelque chose finalement de banal et de naturel. En effet, des cimetières sont présents dans les villes et les villages, cohabitant avec les citoyens, de manière sereine, souvent à côté des églises. On enterrait même les défunts dans leur propriété privée, avec un petit monument funéraire. Cette familiarité va se perdre au fil des siècles. Et l'attitude de l'homme devant la mort va profondément se transformer. À partir de 1300, l'Église va instaurer la peur de la mort et la perspective du jugement dernier. Car chaque vie, de toute croyance ou non, sera alors dévoilée devant tous. Nous, les pauvres accusés, serons alors sanctionnés ou récompensés suivant nos bonnes œuvres pratiquées ici-bas. C'est ainsi que l'homme va commencer à craindre la mort. L'institution ecclésiale de l'époque dirigera donc son discours vers cette terrible culpabilité face à ce jugement dernier. Une notion de responsabilité de nos actes sur terre est proclamée par le clergé. L'homme doit être bon pour être accepté dans l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. Il sera sauvé par ses œuvres, pratiquées ici-bas, qu'il soit chrétien ou non. On peut déjà dissiper de suite cet argument par la Bible, qui dit, dans Éphésiens 2:8-9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Revenons à cette thèse que l'homme doit être bon pour être accepté dans l'au-delà. Dès le XVIe siècle, la souffrance et la mort seront mises en évidence par le biais de la Passion du Christ en utilisant des pietà, traduisez « vierge de pitié ». Celle que vous voyez est située en l'église Saint-Jacques à Liège. Ce sont des sculptures magnifiques représentant Marie, la mère de Jésus, en pleurs, tenant étendu sur ses genoux le corps de son fils à la descente de croix. La plus célèbre Pietà est celle de Michel-Ange à Rome. C'est ainsi que les figures du Christ et de sa mère en pleurs va évoquer la douleur de la mort et ainsi illustrer la tristesse face à cette inéluctable destinée. Mais ça va évoluer. Dès la Renaissance, l'inquiétude de la mort se ressentira à travers diverses représentations iconographiques qui s'emploient à montrer, tenez-vous bien, des squelettes équipés de faux dansant la farandole avec les vivants. La première danse macabre semble être réalisée à Paris, au charnier des 16 innocents en 1424. Elle s'explique par l'inquiétude des temps de crise en y répondant par l'imaginaire. Cette danse qui mêle mort et vivant souligne la vanité de l'homme, de ses distinctions sociales en se moquant du destin, fauchant le pape comme le pauvre moine, l'empereur comme le petit soldat et le riche comme le pauvre. C'est une leçon de morale adressée aux vivants. En consolant les plus pauvres et apprend aux plus grands que personne n'est au-dessus des lois. Tout au long du XVe siècle jusqu'au XVIe, ce thème sera peint sur les murs des églises, des cloîtres, des ossuaires, des cimetières de l'Europe du Nord. Ces peintures reflètent l'atmosphère d'angoisse qui règne à cette époque. En effet, l'Europe connaît une mortalité catastrophique induite par la famine, la guerre de Cent Ans qui se terminera en 1453. Sans oublier la fameuse peste noire du XIVe siècle qui fera en 6 ans 25 millions de morts. Cette vision apocalyptique est diffusée à travers toute l'Europe. Non pas par Internet, aucun ennemi, mais par les textes poétiques colportés par des troupes de théâtre de rue. Ceci afin d'exorciser cette pandémie qui fait peur à tous. Ça nous rappelle pas mal de choses pour le moment. C'est à partir de cette époque que nous verrons apparaître de nombreuses scènes du jugement dernier présidées par Jésus-Christ, sculpté sur le tympan des églises romanes et gothiques. Ces illustrations sont en parfaite adéquation avec l'Église qui éveille notre émotivité face au trépas, permettant aux vivants de rencontrer la mort et de se remettre en question. Mais voilà qu'aussitôt apparaît une nouvelle vision de l'effigie mortuaire et nous révèle une nouvelle transformation des mœurs. Les gisants, c'est-à-dire ces fameuses sculptures funéraires ornant les tombeaux de célèbres personnages décédés. Ces derniers deviennent des emblèmes mortuaires parce que couchés sur le dos en position de paix. Ici, c'est le plus beau Christ gisant en marbre blanc, que je vous invite d'ailleurs à aller admirer. Il se trouve à la cathédrale Saint-Paul à Liège. Il date de 1696. L'auteur de ce chef-d'œuvre est le célèbre sculpteur liégeois Jean Delcourt. Mais au fait de notre destinée, que dit la Bible, qui est tout de même la parole de Dieu et non la parole des hommes, et répond à toutes nos questions, voire les plus compliquées et les plus difficiles parfois. Nous l'avons déjà cité au début. Éphésiens 2:8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez tous que les lois juives, contenues principalement dans le Lévitique, mettaient l'accent sur trois points. 1. La sainteté de Dieu. 2. L'enseignement des préceptes moraux et 3. Tous les rituels religieux de la loi de Moïse pour être conformes aux exigences de l'Éternel. Il y en avait tellement que c'était impossible de les respecter tous. C'est ainsi que l'apôtre Paul, au sujet des lois juives, a écrit ceci aux Romains. Romains chapitre 10, versets 1 à 9. Je cite, « Moïse a écrit, » donc c'est Paul qui écrit, hein, « Moïse a écrit, l'homme qui veut s'assurer la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi, donc par les œuvres et les interdits, devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Ainsi seulement, il accédera à la vie. » Mais l'apôtre Paul poursuit, le langage de la foi est tout différent. Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ n'est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice reçue par la foi? Et Paul de poursuivre, la parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, poursuit Paul, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fin de citation. Donc, seule la foi sauve. Un point, c'est tout. Ben, et les œuvres dans tout ça, à quoi servent-elles? L'apôtre Jacques précise dans son chapitre 2, verset 17, que c'est la foi qui va produire les œuvres, et non l'inverse. Voilà ce qu'il dit. Il s'en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc, pour être sauvé gratuitement, je dis bien gratuitement, il faut d'abord croire en Jésus, en son sacrifice, et l'accepter comme sauveur personnel. Les œuvres en sont les conséquences, les résultats, les bénéfices. Et les bénéfices de cette confiance que l'on aura placée en Jésus. Nos œuvres deviendront le témoignage de notre foi. Dans Galates 2:20, je lis, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pour mieux comprendre ceci, prenons l'exemple du malfaiteur à la croix. Dans Luc 23, 39 à 43, je lis. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si t'es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était pourtant un criminel haut de gamme, un condamné à mort, un voyou de la pire espèce. Seule sa repentance va le sauver et sa foi en Jésus-Christ. Fixé à la croix, il ne pouvait plus rien faire. Pas de possibilité de faire le monde, pas de pèlerinage, pas de mortification, pas de longue prière répétée, aucune bonne œuvre ne pouvait le racheter. Il était cloué, c'était trop tard. Seule sa foi en Jésus va le sauver. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 1, 18-19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens, que vous avez transmis vos ancêtres. Parce que ça a été transmis par les ancêtres, tout ça. Mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus est en train de payer la condamnation du criminel. Lui, l'agneau sans tache. L'agneau sans tache, sacrifié. C'est ainsi que le plus grand criminel fut sauvé le jour même. La deuxième destinée qui pourrait attendre des fins, c'est l'enfer. Pour ceux qui ont mérité la damnation. Je cite dans la traduction Parole vivante, Apocalypse 21, versets 6 à 8. Désormais, tout est accompli. C'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau, des sources, de la vie, gratuitement. Le vainqueur héritera toutes ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux inconstants, aux dépravés, aux assassins, aux noceurs, aux adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, bref, tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ce verset faisait à l'époque, je ne vous le dis pas, très peur. Imaginez la terreur de cette incertitude de savoir en haut ou en bas. Apocalypse 20, 14 à 15 dit ceci. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ici, le livre de vie appartient à l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus. Parce que c'est lui, l'unique rédempteur, qui inscrira le nom de celui qui croit en lui. Ceux qui ne le confessent pas et n'acceptent pas son sacrifice seront ignorés et rejetés, car ils ne seront pas inscrits dans ce fameux livre de vie. Les fresques, les tympans, les vitraux, les gargouilles, les diables fourchus dans les églises nous rappelaient cette inéluctable terreur de la nuit de feu. La mort aujourd'hui est devant nous, chaque jour, banale, insensible. Elle est en permanence dans notre quotidien par le biais du cinéma, de la télévision, des infos, sans oublier la littérature, la poésie, même la musique et l'opéra s'y est engouffrée. La liste est trop longue. Pratiquement, chaque compositeur dit classique a écrit un requiem, nous rappelant la terreur de sombrer dans ce gouffre sans fond et sans espoir. Sans oublier les fameuses danses macabres de Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Benjamin Britten et Arthur Honegger. Donc aujourd'hui, la mort est devenue un acte inéluctable et bien moins anxiogène que par le passé. Évidemment, il y aura des condamnés. La liste que j'ai citée nous le rappelle. Cette dernière est pourtant claire et précise. Jésus-Christ, encore aujourd'hui, sauve gratuitement. Il nous assure une destinée certaine et incontestable. Mais c'est à nous de faire le pas. C'est ça le problème. Romains 8, de 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi qu'il nous laisse libres de le suivre ou pas. Il nous tend la main à nous de la saisir. Je lis dans Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ça signifie que, comme ce n'est pas de nous, c'est un don divin. C'est un don gratuit. On n'est jamais obligé d'accepter un don, aussi merveilleux soit-il. Mais si nous croyons de tout notre cœur que Christ est mort pour nos péchés à notre place, et qu'il est ressuscité, et que l'on se repent de nos fautes, grandes ou petites, nous sommes déjà sauvés par grâce. Nous pouvons nous endormir dans la paix du Seigneur. C'est pour cette raison que les enterrements protestants vont dans le soutien de celui qui reste. Prier pour celui qui est près du Seigneur et qui est bienheureux ne sert plus à rien. Il est déjà auprès du Père et ne nous entend plus. Cette dévotion pour les défunts sera évidemment dénoncée et condamnée par Luther. Tout cela en se fondant uniquement sur la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, et non sur des écrits apocryphes ou des lois humaines. Pour terminer mon thème ce matin, il y aurait au conditionnel une troisième destinée, appelée le purgatoire. Ce nom n'est repris nulle part dans la parole de Dieu. Il faut remonter pour cela au Concile de Lyon de 1274, pour que l'Église catholique permette à ceux qui ne sont pas damnés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait assez de bonnes œuvres, et qui n'ont pas fait des gros péchés, mais qui ne sont pas dignes d'être acceptés au paradis, directement pourront se purifier en attendant d'y entrer, en faisant un séjour au purgatoire, devenant une sorte de salle d'attente. C'est ainsi que pour racheter nos fautes, de tous ceux qui sont dans le purgatoire, nous, les vivants, exécuterons des prières et des messes pour leurs âmes. D'autres, de leurs vivants, et pour racheter leurs propres fautes, feront pénitence, récitant des chapelets, se flagellant, se mortifiant, etc., etc. Mais, en 1506, les autorités ecclésiales de l'époque vont accentuer cette crainte de la mort et de ce séjour au purgatoire pour s'enrichir en vendant des indulgences. C'est-à-dire racheter avec de l'argent sonnant et trébuchant des années de purgatoire que le défunt ne prestera pas et ainsi ira plus vite au paradis. C'est ainsi que l'argent récolté servira à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Ces aberrations sont sans fondement biblique, bien sûr, et seront les éléments déclencheurs de la réforme, justifiés bibliquement dans le Lévitique. Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Ici, le terme « se prostituer » est considéré comme « tromper Dieu », »,« tromper l'Éternel », avec des actes d'idolâtrie et d'incantation des morts, oubliant les droits de l'Éternel. Car je lis dans Michée 5,12, « J'exterminerai de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. » Mais revenons à notre fameuse gratuité du salut. Galates 2,16 dit ceci, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc la parole de Dieu proclame ainsi la gratuité du salut qui vient de Dieu et qui ne dépend rien de nos propres mérites. Qu'est-ce que vous voulez monnayer avec Dieu ? L'Éternel ne s'achète pas, ne se monnaie pas, ne fait aucun compromis avec nos fautes. L'Éternel a horreur du péché. Seul Christ sera, si vous le désirez, votre avocat devant Dieu son Père. C'est ainsi qu'en invoquant la gratuité du salut, le chrétien réformateur ne peut admettre le purgatoire qui n'a aucune référence biblique parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à notre place. Il a déjà payé notre condamnation. Jacques 2, 26, je lis. « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc les œuvres sont bien les conséquences de la foi qui sauvent gratuitement et non l'inverse. La Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, transforme notre attitude devant la mort. Les défunts étant dans la main de Dieu, il est impossible pour les vivants d'influencer leur sort et il n'y a pas lieu de prier pour eux et encore moins de les invoquer. Jésus est très clair à ce sujet et il a dit ceci dans Jean 14, 6 « Je suis, dit-il, le chemin, la vérité et la vie et nul n'ira au Père que par moi, dit-il. » Je suis le chemin à la vérité et nul n'ira au Père que par moi. Le mot nul est clair, c'est zéro et précis. On ne peut invoquer que Jésus-Christ ressuscité et personne d'autre. Les prières pour les morts, malheureusement, ne dépassent jamais le plafond. C'est ainsi que souvent nos demandes restent lettres mortes si elles ne sont pas adressées à Jésus-Christ. Mais Satan, le rusé, peut y répondre si Jésus n'est pas présent. Invoquez un mort. Point d'interrogation. Imaginez un papa qui est décédé et qui est dans la félicité de Dieu et qui verrait de là-haut tout ce qui se passe dans sa propre famille. Imaginez. Sa fille kidnappée, torturée, violée, laissée agonisante sur le bord de la route. Croyez-vous qu'il sera considéré comme bienheureux? Il ne voit plus rien de ce qui se passe ici. Sans quoi il ne serait pas bienheureux. La parabole du riche et du Lazare nous montre qu'il n'y a aucun contact entre les vivants et les morts, et encore moins entre l'enfer et le paradis. Ça a été rappelé en introduction. En conclusion, nous voyons que le seul nom qui existe et qu'il faut évoquer, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre médiateur ni médiatrice capable de nous entendre, de nous écouter, de nous influencer et surtout de répondre à nos prières. Ne perdons pas notre temps à prier en nous adressant à nos morts. Si nos bien-aimés sont sauvés par grâce, ils ne nous entendent plus. Ils sont sourds et comme Lazare, ils sont heureux et ne voient plus rien de ce qui se passe ici-bas. Mais le non-croyant, celui qui n'a pas accepté le sacrifice et la résurrection de Jésus pour lui, on ne sait plus rien faire. Car celui qui est mort dans ses fautes, comme le riche, dans la parabole, est déjà condamné. On ne peut plus rien pour lui. Il avait de son vivant l'occasion de régler sa destinée et il l'a refusé. C'est ainsi qu'aucun mort ne peut intercéder pour nous. Seul Jésus-Christ possède cette faculté, mais uniquement de notre vivant. Cela ne doit pas nous empêcher de penser à nos bien-aimés qui sont décédés, de les inhumer dans le plus grand respect, de se souvenir d'eux et d'avoir du respect pour leur dépouille, bien sûr. Nous assistons chaque année, en novembre ici à Blégny, aux cérémonies de souvenir des hommes tombés au combat en 14 et en 40. Ne confondons pas penser à eux et prier pour eux. C'est deux choses bien différentes. On peut honorer un papa, une maman qui est décédée, en lui apportant, en parlant de sa vie, en apportant un témoignage. Ça oui, mais prier pour lui, c'est plus possible. Le principal pour être sauvé, c'est de régler notre destinée éternelle de notre vivant, en acceptant Christ comme notre sauveur personnel. Croire sincèrement de notre cœur qu'il a payé à la croix nos forfaits à notre place et qu'il est ressuscité des morts. Et seulement nous pourrons nous endormir dans la paix avec l'assurance de notre salut. Il est vrai que nous comparaîtrons devant l'Éternel et il a le péché en horreur. Il va nous demander si nous avons son Fils Jésus comme avocat qui certifiera que nous lui avons fait confiance en acceptant son sacrifice à la croix, car son sang a coulé à notre place, et qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme écrit dans 1 Timothée 2,5. Je lis, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Christ aide et sauve ceux et celles qui croient en lui et en personne d'autre. À nous d'accepter ou de refuser. » Jean 3,16 nous le rappelle. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le verset ici ne dit pas « aura peut-être la vie éternelle », mais il dit « vous l'avez déjà ». Alors ne sortez pas de ce moment présent sans avoir fait le pas d'accepter Christ dans votre vie, car demain, c'est un autre jour. Je conclus par 3 versets, tirés du psaume 36, versets 11 à 13. Enseigne-moi tes voies, Éternel, et je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons réitérer toute l'adoration que nous te portons. Père éternel, nous te louons et te remercions d'avoir sacrifié volontairement ton Fils, Jésus, à la croix, pour payer à ma place tous mes forfaits et d'être considéré comme ton enfant. Seigneur Jésus, grâce à ton sacrifice, à ta résurrection, tu es devenu notre avocat auprès de ton Père céleste. Tu défends notre cause, car nous sommes par la foi déjà inscrits dans le Saint-Livre. Maintenant, Seigneur, fructifie notre foi par nos œuvres et l'amour du prochain. Apprends-nous à aimer, à écouter, à aider, à surtout à pardonner, et qu'en fait, ton Saint-Nom soit glorifié à jamais. Amen.